Bonjour.
Bonjour.
Je me permets de vous demander de vous présenter.
Je m'appelle Seydou Badian Kouyaté. J'ai été responsable politique au Mali. Mon parti est le Rassemblement démocratique africain. J'y ai milité tout jeune. Et j'ai assumé des responsabilités jusqu'au coup d'État qui a renversé le pouvoir qui était le nôtre. Je reste fidèle à l'idéal du RDA.
Ancien ministre, on peut le dire.
Ancien ministre, j'ai été ministre du Plan et de l'économie rurale. Ensuite, j'ai été ministre à la présidence jusqu'au coup d'État. Je reste fidèle à l'idéal du RDA parce que pour nous, nos États étaient des micro-États. L'Afrique ne serait vraiment elle-même que le jour où nous arriverons à former un grand ensemble.
Et là, vous avez quel âge?
Oh, j'ai été ministre très jeune. J'ai été ministre de la loi cadre en 1957. Je n'avais pas 30 ans. Et puis le coup d'État est arrivé en 68 et j'avais 40 ans. C'était jeune.
Alors on va parler un peu de l'histoire, hein, parce que vous avez été un acteur de cette histoire-là. Nous sommes à Cotonou du 25 au 27 juillet 58. Réunion du PRA, vous n'étiez pas parce que vous êtes vous êtes RDA, c'est le PSP qui était là-bas. Mais ensuite, il y a eu quand même Dakar, c'est de cette période de la deuxième émission qui nous intéresse. Il y a eu Dakar et vous vous retrouvez à Dakar, mais il faut dire qu'il y avait deux délégations à Dakar. Une délégation du PSP et une délégation du RDA. Ce que les turiféraies du PSP disent aujourd'hui, c'est que le RDA a corrompu, je cite, c'est une citation, a corrompu des cadres du PSP et les a récupérés là-bas. Donc, et que vous avez décapité la véritable délégation, la délégation officielle du PSP. Est-ce qu'il peut éclaircir un point d'ombre de cette histoire?
Non. En réalité, nous avions réalisé ici l'Union nationale. Nous avions discuté avec les dirigeants du PSP, les dirigeants soudanais du PSP, et nous étions arrivés à une formule, l'Union nationale. Des responsabilités leur avaient été proposées, des promesses avaient été faites, et ils nous ont rejoints. Je donne une précision. Le RDA, en arrivant à Dakar, était déjà malade. En 1957, au congrès de 1957, Oufouet Boigny, président du RDA, était ministre français de la Santé. Nous avons tenu un congrès ici et nous étions à l'orée de l'indépendance. Modibo Keïta, Sékou Touré se sont battus avec d'autres pour que nous allions ensemble à l'indépendance afin que la Fédération Afrique Occidentale reste. Mais Oufouet s'y est opposé. Oufouet n'est même pas descendu dans la salle de congrès. J'étais là. Il est resté à Koulouba chez le gouverneur.
À Bamako ici.
À Bamako ici. Nous avons accueilli Pierre Mendès France, Edgar Faure, François Mitterrand, qui étaient des amis d'Oufouet. Nous, militants, on est restés dans la salle de congrès. Le congrès s'est déroulé sans Oufouet. Mais il y a eu Senghor, Mamadou Dia, Lamine Gueye, qui sont venus, qui ont défendu la thèse qui était la nôtre, c'est-à-dire rester ensemble. Et Senghor a même proposé, on change de capitale si vous voulez, si c'est parce que Dakar ne doit pas être la capitale. On change de capitale, mais restons dans l'ensemble ouest-africain.
Alors, la délégation soudanaise était composée de qui?
Il y avait Modibo Keïta, il y avait Idrissa Diarra, Maman Alassane Haïdara, Yacouba Maïga.
Toi, vous?
Votre serviteur, comme on dit. Il y avait Ibrahim Sall. C'était les principaux membres de la délégation du RDA.
Alors, souvenez-vous, vous allez à Dakar. Et quel accueil avez-vous réservé au général de Gaulle? Nous sommes en 58, là.
Non, nous avions laissé les Sénégalais assumer ces rôles. Et les Senghor, d'ailleurs, avaient laissé Wal Diodio, ministre de l'Intérieur, seul pratiquement, accueillir le général de Gaulle.
Pourquoi?
Parce qu'il y avait des choses à dire qu'il ne voulait certainement pas dire. Et Wally était une sorte de casse-cou, un homme de courage dans tous les domaines. Et c'est là où il y a eu les porteurs de pancartes. Ils ont créé une association d'ailleurs qui existe encore au Sénégal. C'est eux qui voulaient de l'indépendance. Et quand De Gaulle s'est adressé à eux, vous, porteurs de pancartes, etc., si vous la voulez, prenez-la. Nous n'étions pas. Nous n'étions pas. Mais au référendum, nous avions décidé de voter oui.
Mais vous n'étiez pas, mais Senghor et Diagne n'y étaient pas également.
Non, non plus. Non, je vous dis, c'est Wal Diodio qui a été chargé d'accueillir Senghor et Dia avaient disparu. Mais pour nous, nous votions oui au référendum. Parce que nous n'étions pas prêts. Nous avions encore les chefs de canton qui étaient les appuis de l'administration coloniale. Ségou Touré a pris ses responsabilités parce que lui, il avait supprimé la chefferie. Amani Diori du Niger, non, plutôt Djiboka, non, excusez-moi.
Oui.
Bakary Djibo était le responsable du Savaba, un parti opposé à nous. Au Niger. Lui, il a décidé, parce qu'il est syndicaliste aussi, de voter non. Et il avait la chefferie, il n'avait pas fait du tout le travail en profondeur, le travail d'encadrement de Ségou Touré. Il a décidé de voter non. La population a voté oui. Lui, il a pris le chemin de l'exil. Il était à Bamako ici.
Alors, et le discours de Wal Diodio, Ndiaye, vous pensez quoi de son discours de l'époque?
Wal Diodio a essayé de faire un discours neutre. Il n'a pas cherché à dire non au oui de Gaulle et il n'a pas cherché à dire oui au nom des jeunes.
C'est une réponse de Normand, ça.
Absolument. Mais ça s'est bien passé. Moi, il était un peu gêné par la présence des pancartes. Les porteurs de pancartes sont aujourd'hui parmi les responsables sénégalais de maintenant.
Allez, citons-les.
Il y avait un qui a été maire de Rufisque. J'oublie son nom et qui doit être au Sénat aujourd'hui. C'est lui qui est un des principaux animateurs de l'association des porteurs de pancartes. Oui.
Il y avait des pancartes des calicots comme on faisait des tracts à l'époque.
Oui, c'est ça. C'est ça. Bien voyant. L'indépendance. Et il y avait aussi le PAI. Les cadres du PAI, les Majmoud Diop et autres.
Le PAI, le parti.
Le parti africain de l'indépendance. Eux, ils voulaient l'indépendance immédiate. Eux aussi ont fabriqué des pancartes.
Et De Gaulle, il a pris ça comment? Il a pris ça comme un affront?
Il a apostrophé, vous, le porteur de pancartes. Vous voulez l'indépendance? Eh bien, prenez-la. La France, reste la France. Et vous ferez vous cheminerez. En solitaire, en dehors de nous. Voilà, à peu près c'est beau.
La suite a été brutale, bien sûr.
Tout à fait. On a vu avec l'expérience guinéenne, Ségou Touré a décidé de faire voter non. La population a suivi, mais la France brutalement a retiré tous ses techniciens. un désordre inouï. Et la Guinée était pratiquement à plat. Pas à genoux, mais à plat. Oui.
Toujours avec Seydou Badian Kouyaté, écrivain, homme politique malien qui a connu cette période-là. Il était à Dakar, c'était un pilier du RDR ici. Alors, Seydou Badian Kouyaté, comment voyez-vous Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor? Si je vous dis Modibo Keïta, Léopold Sédar Senghor.
C'était deux hommes différents. Modibo Keïta était un homme politique intransigeant. Il n'était pas homme de compromis. Il était tranchant. Senghor, c'était différent. Senghor était l'homme de compromis.
Policier.
Il voulait arranger les choses. Il voulait rassembler par le discours.
Il avait le verbe aussi.
Modibo cassait. Pour lui, c'était blanc ou noir. Il n'y avait pas de nuance. Senghor, c'était différent. Mais je les considère tous les deux comme des hommes profondément intègres. Chacun était attaché à l'Afrique, à l'idéal africain, à sa façon. Mais là, ils se rencontraient autour. L'Afrique les unissait. Senghor pensait qu'il fallait faire encore du chemin avec l'Occident. Modibo pensait qu'aujourd'hui, l'Afrique doit assumer son destin. C'est la différence entre deux. Modibo était un peu, si vous voulez, dans la mouvance de Kwame Nkrumah. S'affirmer et s'unir. Senghor, c'était tout à fait différent. Senghor voulait du chemin avec l'Occident pour permettre à l'Afrique d'apprendre avant de s'unir. Modibo voulait d'une Afrique unie qui devait s'affirmer et qui avait la possibilité et la potentialité de s'affirmer. C'était difficile coopération. C'était difficile.
C'était pas une cohabitation pacifique, c'était une cohabitation. Il y avait...
Quelqu'un a dit que l'union est un combat. Oui. Eh bien, ça s'applique à l'exemple Modibo Senghor. On a créé finalement, j'ai dit que le RDA était malade à Bamako. Le fait que vous faites ce soit opposé au maintien de la fédération ouest-africaine. On savait que Sékou Touré aurait claqué la porte. Mais nous aussi, ça a créé un malaise au sein de l'Union soudanaise RDA. Nous avions des camarades qui voulaient qu'on soit avec Oufouet, tant pis. Mais nous, en grande majorité, les dirigeants de l'Union soudanaise, à partir du moment où Félix Oufouet-Boigny était opposé au maintien de la fédération, nous avions pris nos distances avec lui.
Justement, qu'est-ce que vous pensez de cette attitude de Félix Oufouet-Boigny?
Nous avons pensé que c'était quelque chose dicté par, je dis les mots, par l'impérialisme. Nous nous souvenons de l'époque, dit qu'il n'est pas question que la Côte d'Ivoire soit la vache à lait d'un ensemble, quel qu'il soit.
C'est au fait qu'il le disait.
C'est au fait qu'il le disait. C'était une expression d'égoïsme national. Et il a beaucoup perdu de son prestige au cours du congrès de 1957. Au niveau de la jeunesse, nous étions des jeunes de l'époque. Et nous n'avons jamais, depuis cette date, jamais été des fans d'Oufouet, c'était fini.
C'est le divorce.
C'est le divorce. Divorce avec Sékou Touré et son parti, le Parti démocratique de Guinée. Divorce avec une majorité de cadres de l'Union soudanaise RDA. Mais comme le RDA est né ici, nous n'avons pas voulu casser. Mais le cœur n'y était plus.
Vous a déçu
profondément. Il nous a déçus Et je me souviens, nous voulions l'indépendance. Il y avait quelques représentants de l'Afrique centrale qui ne voulaient pas de l'indépendance, qui disaient la loi cadre, rien que la loi cadre, mais toute la loi cadre, pas question d'indépendance. Mais nous, nous voyons déjà la souveraineté nationale et internationale. Et je préviens que nous étions avec les dirigeants du PSP. Donc dire qu'ils étaient, qu'on en a corrompu quelques-uns, etc. Non, le PSP a pratiquement cessé d'exister et s'est fondu dans l'ORDA.
Oui, il faut quand même rappeler qu'en 59, vous êtes déjà de retour à Bamako et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Madara Keïta, dissout, prend une décision, un arrêté ministériel pour dissoudre le PSP.
Avec l'accord des dirigeants du PSP.
C'est l'autoflagellation, ça.
Avec leur accord. Vous savez que notre premier ambassadeur pratiquement en France était M. Yah Doumbia, qui était un éminent cadre du PSP. Ensuite, Philippe Dabo Sissoko était conseiller à la présidence ici, etc. Nous étions ensemble. Ils avaient décidé de se faire harakiri pour composer l'Union nationale avec nous.
Alors, est-ce que vous croyez que la Seydou Badian Kouyaté, que la Fédération du Mali et le fédéralisme africain à l'époque étaient une bonne chose et pourquoi?
Vous savez, pour le RD, nous avions créé un autre parti avec Senghor, Mamadou Dia, Lamine Gueye, qui étaient les dirigeants sénégalais. Nous avons créé le parti de la Fédération africaine, le PFA. Et nous avions attiré la Haute Volta de l'époque et le Dahomey. À Dakar, le jour où on a proclamé la naissance de la fédération, il y avait le Soudan, il y avait le Sénégal, il y avait le Dahomey et il y avait la Haute Volta. Mais nous avons considéré que par l'action négative de Félix Houphouët-Boigny, le Dahomey et la Haute Volta nous ont quittés. Nous sommes restés en tête à tête Sénégal-Soudan. C'était difficile. C'était difficile parce que nos politiques étaient radicalement opposées. Je vous ai dit tout à l'heure que Senghor était l'homme des nuances, l'homme des compromis. Nous étions des radicaux. Si on était resté avec les deux compagnons, les angles auraient pu être arrondis, on aurait pu rester ensemble, il y avait un arbitrage, il y avait la possibilité de concilier ce que l'on considérait comme des irréductibles. Malheureusement, nous considérions que c'était l'action d'Houphouët qui a fait partir la Haute Volta et le Dahomey. Et la fédération était difficile, c'était condamné. Je me souviens, Diop Birago, l'écrivain, m'a dit, ah, Seydou, ça va être difficile.
L'écrivain sénégalais.
L'écrivain sénégalais, parce que j'ai servi chez vous comme vétérinaire, je connais la mentalité, mais ce sera très difficile que vous puissiez faire ménage avec nous. Alors je crois que c'était un homme d'expérience.
Vous savez ce qu'il disait.
Il savait ce qu'il disait.
Alors finalement, est-ce que vous avez été déçu quand même par l'éclatement de la fédération?
Profondément déçu. Profondément déçu parce que nous pensions que c'était un noyau. Il y a eu certes des défections, mais nous n'avions jamais désespéré. Nous avons pensé qu'il était possible, malgré tout, de vivre et de renouveler les alliances et d'aller vers les autres, ou que les autres viennent à nous. On n'avait jamais désespéré. Mais il y avait un problème en dessous. C'était le problème algérien. Modibo était pour l'aide au FLN. Senghor et Madoudia étaient contre.
Le FLN, le Front de Libération Nationale.
Libération nationale algérienne. Et j'anticipe, Après l'éclatement de la fédération du Mali, Modibo a tenu un discours virulent en revenant de Dakar, à Kaye. C'était pratiquement la rupture avec la France. Quelques jours plus tard, De Gaulle a envoyé une lettre d'invitation à Modibo par André Malraux, que nous avons accueilli ici. Moi, j'ai été chargé par Modibo d'apporter la réponse au général De Gaulle. Je me suis rendu à Paris. Le général m'a dit, vous savez, monsieur le ministre.
Le général De Gaulle.
Vous savez, monsieur le ministre, Modibo Keïta est un patriote africain. Je n'ai que de l'estime pour lui. Mais je pose une question. A-t-il vraiment les cadres de son ambition? Il est un peu comme Gamal Abdel Nasser. L'histoire, c'est l'histoire. C'est De Gaulle qui parle. Vous étiez avec le Sénégal, vous n'êtes plus avec le Sénégal, mais la France est avec vous. Moi, j'ai fait visite à André Malraux. Ce dernier m'a dit, docteur, vous savez, il faut savoir choisir entre le destin et l'aventure. Je lui dis, je ne vous comprends pas. Il dit, si, vous me comprenez. L'aventure, ce sont vos alliances avec le Nord. Le destin, c'est avec la France. Je lui dis, ah bon? Il me dit, oui. Le FLN, pour parler franc, monsieur le ministre, le FLN que vous soutenez, eh bien, nous avons la conviction que vous ne ferez pas long chemin avec lui. La France, elle restera. Elle restera avec vous. Et voilà.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez aujourd'hui pour votre pays, pour l'Afrique? Est-ce que ce serait un socialisme à l'africaine? C'est quoi pour vous?
Ce serait un socialisme. Parce que l'égoïsme, les institutions, le dictat des institutions de Bretton Woods nous ont fait beaucoup de mal. Nous avions, à l'indépendance, nous avions élaboré un tissu industriel au Mali. Le dictat est arrivé d'en haut, privatisé. C'est-à-dire, on a privatisé pratiquement, les dirigeants de l'époque ont bradé, on a vendu à des copains, à des amis, et nous sommes restés économie coloniale. Ça, c'est Bretton Woods. Je pense encore aujourd'hui que ce qu'ils voient, les dirigeants de Bretton Woods, ce qu'ils voient pour l'Afrique, c'est un destin d'économie coloniale. S'ils ne laissent pas les États s'occuper de l'industrialisation, nous n'avons pas de privés nationaux capables de faire ce que les privés ont fait chez eux. Ici, le moteur, ça ne peut être que l'État. Ou alors, on reste économie embryonnaire, on reste économie coloniale, on vend les matières premières et on achète des produits manufacturés.
Voilà. L'avant-dernière question, c'est quelle est la place qu'occupe cette période de votre vie dans votre cœur aujourd'hui? Je vous vois là assis, on peut dire vous avez une canne. Ça fait quoi pour vous cette période-là?
C'est une période très riche. Et moi, je pense que nous avons quelque chose à transmettre à la jeunesse avant de mourir. Et nous nous rendons compte que les faits nous donnent raison. Peut-être que nous étions un peu trop excessifs. Nous étions, je le répète encore, radicaux. Peut-être qu'il nous manquait un peu de doigté, un peu d'esprit de conciliation, peut-être. Mais nous avons beaucoup fait, beaucoup appris. Et je pense que nous, les jeunes, doivent tenir compte de notre expérience pour faire une autre Afrique. Pas celle d'aujourd'hui. pas celle des privatisations, de l'économie coloniale, etc. Non. Une Afrique qui s'affirme et qui cherche à s'unir. Il faut. C'est indispensable. Les micronations ne n'arriveront à rien.
Vous croyez toujours à la possibilité des États-Unis d'Afrique aujourd'hui?
Tout à fait. J'y crois ferme.
À la Kadhafi ou à la Bongo ou à la Ouad ou à la Alpha Conaré ou à ATT?
Alpha Omar Conaré et moi, nous nous sommes vus. Il m'a donné des documents que j'ai lus. J'ai parlé avec lui. Je crois à son option à lui, à son cheminement à lui, à sa voix à lui. Parce que ce n'est pas loin de celle de Kwame Nkrumah. Ce n'est pas du spectacle. Ce n'est pas ça. Mais c'est un travail de fourmi. Et je suis prêt à faire un chemin avec lui.
Et l'état de la démocratie en Afrique aujourd'hui?
Vous voyez, vous savez, il y a quelque chose qui me fait rire. On dit que nous étions les dictateurs, je veux bien. On dit Modibo, le parti unique, c'était la dictature. Nous étions membres, moi j'étais membre du bureau politique de Modibo Keïta. Modibo n'a jamais pris une décision tout seul, jamais. Nous discutions avec lui.
Oui, mais c'était quand même organisé, il avait des partisans, les réunions s'organisaient avant, comme au Politburo.
Pas du tout.
Enfin.
Non, absolument pas. Nous avions mis Modibo en minorité plusieurs fois. Il s'incline.
Mais il a pris sa revanche parfois.
Non. Parfois, c'est lui qui arrive à nous battre. Mais quand on le revoit, il cède. Et c'est un homme de bonne foi. Il a tort. Il dit, ah, il a fait une erreur. Il dit, ah, j'ai commis une faute. Et mais aujourd'hui, les soi-disant démocrates, c'est des autocrates. Modibo n'a jamais été un autocrate. Jamais, jamais, jamais. Nous discutions avec lui. Vous savez, c'était un homme. Je me souviens, un État voisin a eu ses opposants chez nous. Il y a eu des grenades qui ont explosé quelque part dans ce pays. Et on a accusé ceux qui étaient là. Les dirigeants de ce pays avaient des bons liens avec nous. Ils nous ont demandé de leur livrer leurs opposants. On a tenu une séance du bureau politique. De 16h à minuit, on ne voulait pas. Il y en a qui voulaient, d'autres ne voulaient pas. Finalement, la majorité a décidé de le livrer. La majorité, nous avons été battus. La majorité a décidé de les livrer. Bureau politique. Modibo a dit, la majorité a décidé. Alors, je voudrais que la majorité exécute. Moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je sais ce qui s'est passé. Mais à minuit, ces dirigeants avaient des véhicules, avaient de l'argent pour quitter le Mali et aller en Guinée.
De fuir. Dernière question, un mot à l'adresse de la jeunesse africaine, où vous écrivez beaucoup, vous êtes auteur de Sous l'orage. Et un mot à l'adresse de cette jeunesse africaine.
Je dis à la jeunesse que rien n'est perdu. L'Afrique aujourd'hui n'est pas belle à voir. Il y a la corruption, il y a le favoritisme. Nous avons des chefs d'État prédateurs, mais rien n'est perdu. Une nation ne se construit pas en 24 heures. Je leur dis de faire confiance à eux-mêmes. Personne ne pouvait imaginer, je dis comme ça, qu'un Sankara pouvait surgir en haute volta. Mais nous avons des hommes. Le passé enseigne toujours. Le passé a des leçons.
On va commencer. Le passé
est riche. de leçons. Nous devons savoir en tirer profit. L'Afrique n'a pas un destin de continent médiocre, de continent marginalisé. L'Afrique a des ressources humaines, des ressources matérielles. Et demain, j'ai la conviction que tout ira bien.
Vous êtes en colère là, Sidou Badian.
Quelqu'un a dit, il suffit d'une étincelle pour mettre le feu à la plaine. C'est Mao Zedong.
Oui, vous êtes pro-chinois.
Tout à fait.
Et ça, ça date des années 50 d'ailleurs, on aurait dû en parler un.
J'ai été en Chine pour la première fois en 1957. La Chine avait 8 ans. Nous n'étions pas encore indépendants.
Et vous faisiez partie des premiers.
Destin, oui.
À dire, écoutez, oui. Développons notre coopération avec la Chine.
Oui. Et à l'indépendance, j'ai dirigé la première délégation du Mali en Chine en septembre 61.
La Chine en Afrique aujourd'hui, ça ne fait pas peur?
Non, pourquoi? Évidemment, il y a des petites, il y a des boutiques, il y a des banabana chinois, mais ça, ce n'est pas la Chine. Ça n'a rien à voir. On dit chez nous qu'il y a le fleuve, il y a l'embrun. Quand la ménagère fait son linge, il y a l'eau et il y a l'écume. Il y a la mousse. C'est pas ça. Moi, je connais la Chine. Je crois connaître la Chine. Et j'ai la conviction qu'avec l'Afrique, elle fera du beau travail. Mais nous travaillons avec elle d'égal à égal. Comme ils disaient eux-mêmes, avantage mutuel.
Partenariat gagnant-gagnant. Partenariat
gagnant-gagnant. Ce n'est pas pour nous dominer, ce n'est pas pour nous coloniser, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils cherchent leur intérêt, nous cherchons le nôtre.
C'est Sidou Badian Kouyaté, merci beaucoup.
C'est moi.